Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous, retour bien sûr sur cette attaque à la voiture sur l'île d'Oléron. Le suspect âgé de 35 ans aurait indiqué aux enquêteurs s'être auto-radicalisé ces dernières semaines, mais les troubles psychiatriques prédominent. On a d'ailleurs appris hier après-midi que le parquet national antiterroriste avait décidé de ne pas retenir sa compétence. Le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larez, a fait le point sur les investigations au cours d'une conférence de presse hier en début de soirée, confirmant que même si l'individu a bien crié à la Wakbar au moment de son interpellation par les gendarmes, la piste terroriste était donc écartée.
S'agissant de l'absence à ce stade du caractère terroriste des faits, l'article 421-1 du Code pénal définit les atteintes volontaires à la vie à caractère terroriste comme celles commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En l'espèce, en dépit d'un mode opératoire relativement préparé, le parquet national antiterroriste a considéré que l'intéressé, décrit par son entourage comme polytoxicomane et sous l'emprise de cannabis au moment des faits, tenait en garde à vue des propos manquant de cohérence, marqués de troubles de la personnalité et n'inscrivait pas son action dans une dimension djihadiste. Les premières exploitations techniques ainsi que les résultats des perquisitions réalisées n'ont pas permis, selon le PNAT, à ce stade de la procédure, de déterminer de liens avec des organisations terroristes ou avec toute autre personne connue des services spécialisés de renseignement, ni de consultation de propagande djihadiste. Après évaluation de la situation, le parquet national antiterroriste ne retenait donc pas sa compétence, mais restait en observation.
Et l'expertise psychiatrique du suspect effectuée en garde à vue a conclu à une altération du discernement, mais pas une abolition.
Le médecin psychiatre requis retenait dans ses conclusions que le mis en cause n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant totalement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Une altération du discernement était relevée, de même qu'une personnalité marquée notamment par des conduites addictives et une dangerosité d'ordre psychocriminologique non négligeable. Au cours de ses auditions de garde à vue, M. G., après avoir commencé par garder le silence, reconnaissait être l'auteur des blessures occasionnées. Il motivait son acte en indiquant avoir suivi les ordres d'Allah, qui lui intimait de faire un sacrifice. Il déclarait s'être tourné vers le catholicisme dans un premier temps, puis s'être converti récemment à l'islam, seul et à l'aide des réseaux sociaux. Il déclarait avoir souhaité mourir en s'immolant, mais n'était pas parvenu à faire exploser son véhicule. Dans sa dernière audition, il déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelques temps et faisait part de sa volonté d'être interné. Il n'évoquait aucune aide extérieure pour son passage à l'acte.
Et concernant les 5 blessés touchés pendant les collisions survenues mercredi matin à Saint-Pierre et Dolus, 2 sont sortis de l'hôpital. Pour les 3 autres, leur pronostic vital n'est plus engagé. Les 2 victimes principales sont une jeune femme de 22 ans, également collaboratrice du député RN Pascal Markowski et un cycliste de 69 ans. La réaction de Michel Parent, président de la communauté de communes de l'île d'Oléron, au lendemain de l'attaque à la voiture, ses premières pensées vont aux 2 victimes les plus gravement touchées.
D'abord, une bonne nouvelle, c'est que ceux qui étaient blessés gravement, étaient considérés en urgence absolue, sont sortis de l'urgence absolue, leur vie n'est plus en danger. Bon, il y aura des séquelles fortes, bien sûr, notamment pour la jeune femme, pour Eva, qui a été quand même terriblement agressée par le chauffard. Mais bon, voilà, il n'y aura pas de décès possible, et ça, c'est quand même une très très bonne satisfaction. Pour le reste, eh bien, on a vécu une journée de psychose complète à Oléron, puisque des rumeurs laissaient entendre qu'il se déplaçait dans l'île, qu'il n'était pas seul, qu'il avait un fusil, etc., etc. Bon, dès qu'il a été arrêté par les gendarmes, la situation s'est un peu assainie, mais la psychose demeurait. Aujourd'hui, eh bien, alors que les médias maintenant vont peut-être passer à autre chose, l'île d'Oléron va retrouver sa sérénité. Et moi, je fais confiance à la résilience des Oléronais pour que la vie redevienne normale très, très rapidement.
Et certaines voix se sont élevées en faveur d'une meilleure sécurisation des pistes cyclables. Pour Michel Parent, rien ne peut nous protéger d'une telle folie.
On a 150 km de pistes cyclables, donc ça n'est pas possible de mettre des barrières partout qui empêcheraient un automobiliste fou de faire la même chose. Non, je crois qu'il faut quand même être raisonnable et faire preuve de bon sens. On peut pas pallier aux actes fous de quelqu'un sur un territoire aussi vaste que sur l'île d'Oléron. Non, ce qu'on peut espérer, eh bien, c'est que ça ne se renouvelle pas. Mais par contre, ce que je dois dire, c'est saluer donc l'efficacité des services de l'État, de la gendarmerie de Saint-Pierre, de l'équipe municipale donc, et notamment des services de police de la mairie de Saint-Pierre, et puis aussi bien sûr des pompiers, du SMUR et de tous ceux qui ont été acteurs. Il y avait quand même plus de 200 personnes qui ont pris en charge donc cette situation dramatique, et ça s'est fait avec efficacité, puisque 35 minutes après le dernier événement, eh bien le criminel était capturé par les gendarmes et mis donc en sécurité dans la prison de la caserne de Saint-Pierre.
Et le procureur de la République va requérir l'ouverture d'une information judiciaire. Le mis en cause est présenté ce matin devant un juge d'instruction du tribunal de La Rochelle en vue de sa mise en examen pour tentative d'assassinat avec préméditation. La détention provisoire sera requise. L'île d'Oléron encore sonnée après ces terribles événements. À la Cotinière, à Saint-Pierre-d'Oléron, non loin du domicile du suspect, le sujet s'immisce dans la plupart des discussions. Martine est bénévole à la SNSM. Elle n'aurait jamais imaginé de tels événements sur l'île lumineuse.
On se croyait protéger tout, l'île d'Oléron, l'île lumineuse. Voilà, puis tout d'un coup, il nous arrive ça. Mais on a peur en fait. On a peur pour nos enfants, on a peur pour l'avenir. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais c'est terrible. J'ai vu des hélicoptères, des pompiers, des voitures de gendarmes passer à toute vitesse. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis rentrée chez moi, donc j'ai vu plein de choses. Je dis, bon, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est horrible.
Un cri-cri et serveuse à la gaieté, elle se remet doucement de ses émotions. Le nom du suspect ne lui est pas indifférent.
Je connaissais de vue parce que on fait des fêtes de village où on se retrouve tous plus ou moins ensemble et donc on se connaît tous plus ou moins. Mais moi je le connaissais juste de vue, je le connaissais pas personnellement, voilà quoi. Tout le monde était très tendu, tout le monde était devenu très méfiant. Déjà les gens étaient un peu planqués, un peu plus planqués qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça sort un petit peu plus. Moi j'ai vu, après nous on a débauché assez de bonheur parce qu'il n'y avait personne dans la rue. Et donc en fait quand je suis rentrée, j'ai vu que même moi je me déplaçais en voiture, j'ai vu que les gens se retournaient pour voir un peu s'il n'y avait pas une récidive ou quelque chose comme ça, quoi.
Jean-François Bonnet, gérant du magasin au Joyeux Petit Pêcheur, a dû rassurer ses enfants.
Mes enfants sont plus inquiétés que moi parce qu'ils ont essayé de me joindre et mon téléphone était en dérangement. Donc du coup, eux se sont inquiétés et après ils sont venus à la maison pour qu'on puisse parler de ça. Et on a su ça vers midi et demi, normal quart, quoi, du matin, quoi. Ils ont eu peur et ont pensé qu'il avait pu m'arriver quelque chose comme ils ne pouvaient pas me joindre. Voilà. Mais donc tout allait bien et j'étais ici à travailler. Tout le monde est rassuré, tout le monde est rentré chez soi après. Et voilà, bon, maintenant il faut que tout ça se... Comment dirais-je, il faut que la justice fasse son boulot.
Et sur les réseaux sociaux, le président de la République, Emmanuel Macron, écrit « Nous sommes tous frappés par l'attaque survenue sur Oléron. Pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté. » Fin de citation. Enfin, la paroisse d'Oléron organise ce soir à partir de 18h une veillée de prière pour les victimes et leurs familles dans l'église de Saint-Pierre d'Oléron. À Pulborough, un magasin évacué à cause d'une odeur suspecte hier après-midi. Un peu avant 14h dans la zone commerciale, le magasin La Foire Fouille a été évacué en raison d'une odeur irritante. 32 personnes ont été prises en charge par les pompiers, le SAMU et la police municipale. Des prélèvements sont en cours pour déterminer l'origine de cette odeur suspecte. On se retrouve dans un instant. Il est midi 15 sur Demoiselle.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Les apprentis et l'apprentissage dans le viseur du gouvernement. Des économies sont prévues dans le budget 2026. La CGT était présente hier devant les portes du CFA BTP de Saintes pour distribuer des tracts aux élèves. Pas de blocage, l'objectif était de sensibiliser le maximum d'apprentis aux mesures d'économie envisagées par le gouvernement. Dans les cartons, notamment la suppression d'une aide au permis de 500 € ou encore une augmentation des charges salariales, synonyme de baisse de salaire pour les apprentis. Écoutez le témoignage de Kylian, apprenti au CFA.
En première année, au début d'année, j'avais un salaire entre 850 € et 900 €, parce que vu que j'ai déjà un bac pro, ça m'a aidé aussi à intégrer le CFA assez rapidement, et puis j'ai eu un patron assez rapidement. Et puis là, en deuxième année, normalement, j'ai un salaire entre 1100 et 1150, sauf que bah, pour l'instant, il n'y a pas eu forcément d'augmentation. Donc, là, maintenant, en deuxième année, à la place d'avoir un salaire de 1100 € pour couvrir les frais d'essence, de tout ça, bah, je passe à un salaire de 950, donc qui revient à un salaire de première année en CAP, bah, menuiserie ou autre. Donc c'est vrai que en fait nous on était contents de passer en deuxième année parce que forcément le salaire est un peu plus grand, donc on se dit qu'on va pouvoir faire un peu plus de choses, mais finalement ben on se retrouve avec un salaire de première année ou même des fois des premières années touchent plus que des deuxièmes années.
Cette volonté de baisser les aides à l'apprentissage est aussi une mauvaise nouvelle pour les entreprises, comme le confie Mathieu Ridoré, président de la fédération du BTP de Charente-Maritime.
Quand on forme des jeunes, on prétend pas forcément former pour ses propres besoins, mais pour le besoin de la profession. Quand on est en crise, forcément, on a moins envie de former pour les petits copains. On est plus là à essayer de sauver quelque part sa propre entreprise, en tout cas faire en sorte qu'elle soit la plus pérenne possible. Donc c'est là où d'arrêter l'apprentissage, d'aider financièrement l'entreprise pour l'apprentissage, c'est une catastrophe parce que elles vont beaucoup plus facilement délaisser, cette capacité à former des jeunes issus de l'apprentissage. Et malheureusement, on sait que l'activité va repartir prochainement. Est-ce que c'est dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois? Je ne sais pas, mais ça repartira forcément parce que les besoins sont énormes, que ce soit en matière de logement, rénovation, neuf, construction d'ordre général. Et si on casse la machine de l'apprentissage, ce sera beaucoup plus difficile à redémarrer. Et quand en plus on aura des vrais besoins d'embauche, et notamment de jeunes, ça sera beaucoup plus difficile pour les entreprises de retrouver des profils nécessaires et suffisants pour les besoins qui seront à l'époque.
Et 2 autres opérations de tractage sont prévues devant les portes du CFA dans les 2 prochaines semaines.
Chaque semaine, retrouvez dans votre hebdomadaire le littoral de la Charente-Maritime, toute l'actualité de notre région.
À la une de notre confrère cette semaine, Oléron, ça se savait qu'il avait des problèmes. La folie meurtrière de Jean Guillot entre la Cotinière et Dolus d'Oléron. Domicilié dans un mobilhome non loin du port, le trentenaire a volontairement percuté plusieurs piétons et cyclistes le 5 novembre. Ronce-les-Bains, projet d'enrochement, les opposants ne lâchent rien. Ils font appel à un nouveau cabinet d'études agréé en vue de proposer un projet alternatif. Il sera rendu public fin novembre. Et puis Rochefort, des collégiens et lycéens en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. 10 élèves du collège Lafayette et 10 du lycée Merleau-Ponty de Rochefort ont rencontré le chef de l'État pendant 1 heure. Objectif, échanger sur les dangers des réseaux sociaux.
Le littoral, c'est chaque semaine des reportages sur la vie locale, sociale, économique, politique et culturelle de la Charente-Maritime. Annonces légales, sorties ciné et loisirs, votre journal vous informe au plus près de l'actualité. Le littoral, en vente chaque vendredi chez votre marchand de journaux.
Demoiselle, l'invité du journal.
Et on parle ensemble aujourd'hui de la nouvelle promotion Unicité Rochefort, la 5e promotion pour la cité de Colbert. Avec vous, Sandra Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice d'Unicité. Et Mathis, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu fais partie de ces jeunes volontaires. Ils sont au nombre de 24 cette année. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Sandra, cette nouvelle promotion?
Eh bien, donc pour cette 5e promotion, donc j'ai la chance d'avoir cette année 24 volontaires sur 3 grandes missions différentes. Toujours une mission autour de la lutte contre l'isolement des personnes âgées, bien entendu, où j'ai 12 volontaires impliqués sur cette mission. J'ai ensuite une mission autour de l'environnement, médiataire, toujours pour sensibiliser à tous les éco-gestes possibles qu'on peut apporter dans notre quotidien. Et ensuite, j'ai une mission de 8 jeunes, dont Mathis, aujourd'hui présent avec moi, pour parler de pair à pair et aller au contact donc, des jeunes et parler des métiers qui recrutent, notamment les métiers de l'industrie et jobs saisonniers sur notre territoire, mais aussi d'organiser des débats citoyens à travers le cinéma et pouvoir amener entre jeunes à aborder des sujets qui, des fois, sont parfois difficiles.
Ces 4 missions, elles existent déjà. Une petite innovation.
L'innovation de cette année, c'est effectivement sur cette partie mission attractivité des métiers, c'est de pouvoir aborder cette notion du job saisonnier et des difficultés qui est aussi de pouvoir rechercher ces jobs, connaître leurs droits, savoir aussi où aller chercher, qui peut aider. Préparer, en fait, l'idée, c'est pouvoir préparer comme un petit kit de lancement dans cette recherche du job saisonnier.
Pourquoi avoir décidé de creuser ce thème ?
Alors, c'est parce qu'on est en partenariat avec la mission locale, et ce depuis des années. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui remonte assez régulièrement de par tous les jeunes que j'accompagne moi aussi au quotidien, hein, mais aussi les jeunes de la mission locale, où il y a une difficulté de savoir à quel moment s'y prendre pour rechercher le job, qui peut faire quoi en fonction de son âge, des diplômes ou pas qu'ils ont, des permis qu'ils ont ou pas. Et en fait, il y a beaucoup de difficultés qui, des fois, bloquent aussi les jeunes à aller ne serait-ce que poser des questions. Et là, l'idée, c'est qu'un groupe de travail, donc ces 8 jeunes en service civique, mais aussi des jeunes de la mission locale qui ont souhaité s'engager sur ce projet, puissent référencer toutes les difficultés et surtout pouvoir y répondre et préparer ce petit kit pour le transmettre aux autres jeunes.
On a 24 jeunes, donc qui sont-ils ?
C'est des jeunes entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans, hein, pour faire un service civique, s'ils sont en situation de handicap. Ce sont des jeunes avant tout, beaucoup de la Caro, mais j'ai aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs, de d'autres départements, et qui viennent justement, alors pour notre jolie ville et notre joli département bien entendu, mais aussi pour ces missions qu'ils souhaitent porter le temps de cette année de césure en service civique.
Mathis, tu fais partie de ces 24 volontaires. Explique-nous pourquoi toi tu as décidé de te lancer.
Parce que tout d'abord, j'étais en licence d'histoire l'année dernière, sauf que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait plus trop. Alors du coup, je me suis dit, quitte à faire une année, autant utiliser cette année pour justement construire un projet professionnel. Donc à savoir passer mon BPJEPS socio-culturel pour devenir animateur.
Ta mission a commencé il y a un mois environ. Qu'est-ce que tu as fait depuis ?
Déjà, pas plus tard que mardi de cette semaine, on a pu faire un premier ciné-débat avec le lycée du Pays de Nice à Surgères sur la thématique de l'harcèlement avec le film « T'inquiète ». Nous avons fait également beaucoup de formations et puis nous avons aussi quelques projets futurs avec d'autres collèges, etc.
Et alors, quelles sont tes premières impressions après un mois ?
C'est assez riche, il faut également suivre le rythme puisqu'on a beaucoup de travail, mais c'est vraiment passionnant.
Sandra Pelletier, il y a un maître mot essentiel au sein d'Unicité, c'est la confiance.
Oui, c'est développer cette confiance en eux. Moi, l'objectif, c'est que durant ces 8 mois, ils puissent expérimenter, tester, échouer, se relever, mais surtout sortir de ce service civique avec cette confiance en eux. Parce que sans cette confiance, honnêtement, c'est très difficile de pousser toutes les portes qu'on doit ouvrir à cet âge-là.
Est-ce que vous avez des nouvelles des anciens, des anciennes, justement, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Oui, alors c'est l'avantage que j'ai, c'est que ça fait maintenant 4 ans que je suis sur cette antenne à Rochefort et j'ai la chance de garder du lien avec tous ces anciens volontaires qui continuent à nous apporter encore et à m'apporter beaucoup de choses. Et puis les voir aussi changer, évoluer, savoir ce qu'ils font, c'est ça mon métier en fait, c'est pour ça aussi que je le fais.
Et en quelques mots, si on souhaite en savoir plus sur Unicité, si on est intéressé, on fait comment ?
N'hésitez pas à aller sur le site unicité.fr, il y a toutes les informations, ou après trouver une antenne à Unicité. On est au niveau national partout, on est en t-shirt orange, c'est plutôt visible.
On peut pas vous louper.
N'hésitez jamais.
Merci beaucoup, merci à vous deux. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Des nouvelles du ciel avec Météo de la Charente-Maritime. Pour des prévisions locales fiables sur notre département, rendez-vous sur la page Facebook Météo de la Charente-Maritime.
C'est calme et nuageux, Pierre ?
C'est calme et nuageux, même avec une dégradation pour cet après-midi qui est attendue. Elle va arriver depuis l'océan, elle va apporter de la pluie sur notre département, peut-être plus marquée en soirée, donc soyez vigilants si vous êtes sur la route. Les températures, eh bien, elles seront homogènes dans tout le département, autour de 14 degrés, voire localement 15. La tendance de ce week-end, eh bien, écoutez, c'est plutôt agréable côté ciel et même dans l'air, avec des températures qui seront stationnaires.
Depuis plus de 60 ans, Cheminée Charrier Artisan RGE vous conseille dans vos besoins de chauffage. Chez Cheminée Charrier, aucun sous-traitant. Techniciens, installateurs, tailleurs de pierre, ramoneurs, commerciaux sont là pour répondre à votre projet et vous apportent un service unique sur le marché local, le sur-mesure.
Poussez les portes de notre magasin pour y découvrir poêles, inserts à bois et granulés, cheminées sur mesure, fabriqués dans nos ateliers à Moise. Plus de 50 modèles exposés en magasin, dont plusieurs en fonctionnement. Cheminée Charrier, 105 avenue du 11 novembre à Rochefort, 05 46 880 770 ou sur cheminée-charrier.fr. Cheminée Charrier, l'artisan de votre belle flambée depuis trois générations.